Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphresne.
Le 22 octobre n'est pas une date anodine, c'est la Saint Jean-Paul II. D'ailleurs, tout à l'heure, Romain Lisée, Jean de Saint-Chéron, nos partenaires pour le Saint du jour, vous en parlaient abondamment. On va y revenir précisément au cours de cette demi-heure d'information, parce qu'on voulait marquer le coup, si on peut dire, avec Alain Vircondelet, universitaire, écrivain, biographe, Jean-Paul II, vie et mort d'un géant aux éditions du Cygne. On en avait déjà parlé avec lui au mois de juillet. Alors la naissance, c'est au mois de mai, hein, ce n'est pas donc le mois d'octobre. Mais la date à retenir, c'est évidemment celle de 1920 qui nous donne un prétexte pour parler de Jean-Paul II. Jean-Paul II est évidemment une figure absolument monumentale. Son nom résonne comme une lumière dans un monde désemparé et inquiet. C'est encore une référence pour beaucoup. Jamais peut-être dans l'histoire de l'Église, un pape n'a délivré une telle espérance, une telle force à un moment crucial de l'évolution de l'histoire du monde. On se souvient en particulier de la guerre froide. Que reste-t-il de son héritage? Qu'a-t-il à nous transmettre aujourd'hui? On sait qu'il a beaucoup lutté contre la culture de mort, pas seulement contre le nazisme et le communisme, mais aussi contre le capitalisme, ce qui se sait moins, ou du moins certains aspects du capitalisme, et puis bien sûr qu'il était très présent sur les sujets sociétaux. On a évidemment un prétexte tout naturel pour en parler aussi, je vais interpeller mes invités sur la question, c'est le pape François qui a défendu très explicitement le droit des couples gays, enfants de Dieu, de vivre au sein d'une union civile, un changement radical par rapport à ses prédécesseurs, en particulier par rapport à ce que disait la Congrégation pour la doctrine de la foi jusqu'à une période récente, encore à l'époque de Jean-Paul II. Donc cela donne aussi un prétexte d'actualité pour en parler. On va voir ce qu'en pensent nos invités que je présente dans un instant. Alain Vircondelet, donc, qui est avec nous, universitaire. Bonjour Alain Vircondelet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je précise qu'on est en présence également d'un autre invité qui est en studio. Je le précise parce que vous êtes à Bordeaux ce matin et donc on est en duplex avec vous. Georges Navrotsky est également avec nous, enseignant émérite et co-auteur de la chanson composée avec Jean-Pierre Stora qui s'appelle Un berger de Pologne. Bonjour Georges Navrotsky. Oui.
Bonjour. Et
je
bonjour
crois que vous
Alain.
Vous connaissez bien tous les deux.
Oui, bonjour Georges.
Bonjour Alain, tu vas bien?
Je connais aussi bien Georges et le compositeur Jean-Pierre Stora aussi qui compose de merveilleuses musiques et qui a eu l'honneur de rencontrer Jean-Paul II à ce sujet.
Alors, allez, on écoutera un extrait de ce que vous avez composé et donc ce que Jean-Pierre Stora a composé, en particulier Un berger de Pologne, vous allez nous le dire tout à l'heure, et que vous avez composé, vous êtes co-auteur en fait. Hein.
Oui, voilà.
Donc on l'écoutera tout à l'heure. Ce que je voulais, Alain Vircondelet, peut-être parce que c'est l'actualité immédiate, et puis Georges Navrotsky aussi, c'est peut-être de réagir à chaud à ce que le pape François a pu dire dans un documentaire à propos de l'union civile entre personnes homosexuelles.
Oui, et je pense que de toute façon, il n'y a pas de timing innocent. Je crois que la parole de François, du pape François à ce sujet, en ce jour quasiment anniversaire de la naissance de Jean-Paul II et surtout de son accession au trône de Saint-Pierre le 16 octobre et le 22, date de sa première messe solennelle à Rome en 78, je crois que ce n'est pas innocent. On ne peut pas imaginer qu'on n'ait pas vu là, que l'on ne voit pas là une concordance extrêmement précise. Il est vrai que Jean-Paul II a toujours manifesté face à ce souci, à ce problème de l'homosexualité. Ça a été un moment charnière dans son pontificat. C'était un homme adulé, c'était un homme qui avait une aura extraordinaire dans le monde. Et dès lors qu'il a parlé à un certain moment, lors de sa visite en Ouganda, d'un dispensaire où survivaient des malades du sida, le pape a eu cette phrase qui a bouleversé le monde en disant que le contrôle de soi et la chasteté étaient les seuls moyens vertueux et sûrs, ce sont ses mots, pour vivre. Et que donc l'homosexualité devait être mise un petit peu en veilleuse si quelqu'un en était affecté ou vivait cette orientation sexuelle-là. Et donc les homosexuels se sont évidemment immédiatement considérés comme des parias et n'ont pas accepté la parole du pape. Et c'est à partir de ce moment-là que je dirais l'image de Jean-Paul II a commencé à s'altérer dans le monde et jusqu'à la fin et encore aujourd'hui, puisque on voit que ce qui lui est quasiment reproché au-delà de ce que vous avez énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire un géant, un homme qui a rassemblé des millions de jeunes, etc., qui a réussi ce produit dis-je, ce qui reste, c'est en fait la position qu'il a eue face à l'homosexualité et face à des problèmes sociétaux, justement. Et le fait que le pape François en ait parlé aujourd'hui ou hier, ou enfin dans cette périphérie de...
Oui, c'est un documentaire, en fait, paraît sur lui.
Voilà, c'est un documentaire qui paraît sur lui, dont on parle particulièrement dans cette semaine-ci, ne me paraît pas totalement innocent.
Mais alors, quand vous dites, Alain Vircondelet, quand vous dites « ça ne me paraît pas tout à fait innocent », je précise que le documentaire retrace les temps forts des 7 premières années de pontificat du pape François.
Mais ce sont ces...
Voilà, et qu'il utilise donc des entretiens non datés du pape, mais il a été dévoilé hier précisément.
Oui,
et donc
vous
estimez qu'il y a une coïncidence de date qui est significante.
Mais je pense qu'elle est très significante parce que en réalité, je pense que le Covid et la crise du Covid a arrangé quelque part le Vatican, parce que la commémoration s'est faite de manière extrêmement discrète, comme vous avez pu le remarquer. Je crois que Jean-Paul II, je ne dirais pas qu'il n'est pas en odeur de sainteté, mais au Vatican, mais quand même, il y a une sorte d'ombre et de voile qui fait que sa personne et son héritage sont un petit peu délaissés. D'ailleurs, Cracovie l'a signalé au travers des paroles qu'a prononcées l'ancien secrétaire du pape, qui est devenu désormais l'archevêque cardinal émérite de Cracovie.
Monseigneur Dziewicz.
Monseigneur Dziewicz. Donc, je crois, une volonté, non pas d'écarter la pensée ni la présence de Jean-Paul II, qui de toute façon est, comme vous l'avez dit, une présence charismatique, une présence qui est symbolique et connue du monde entier. Mais en même temps, je crois que l'aspect sociétal a pris le dessus, de telle sorte que la morale, parce qu'on a pensé que la morale chrétienne telle que Jean-Paul II l'avait enseigné, en réalité, c'était de l'ordre moral plutôt. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas à la mode aujourd'hui et dont le pape François veut absolument se détacher. Donc il y a, à mes yeux, je crois, une concordance qui me semble signifiante.
Ce qu'il faut, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit à être couvertes légalement. J'ai défendu cela, c'est la phrase du pape François dans ce documentaire intitulé Francesco, réalisé par Evgeny Afinievski. Georges Navrovski, est-ce que vous pouvez nous faire partager peut-être votre réaction? C'est vrai que ça chamboule quelque peu en réalité l'ordre de notre propos ce matin, puisqu'on avait planifié cette émission il y a longtemps pour ce 22 octobre. Est-ce que vous voulez qu'on écoute l'extrait peut-être de la chanson que vous avez composée sur Jean-Paul II? Ça lancerait quand même la discussion quand même, et puis donnerait peut-être un caractère un peu prime sautier à notre rencontre, n'est-ce pas?
Absolument.
Allez, on y va.
Un pastore di Pologna alla gimmeria sovida spesso partia da Roma va faghi l'omi ossia nugli amici un pastore di Pologna.
Alors, c'est surprenant que les choses peuvent paraître. Ça s'appelle Un berger de Pologne, mais là, c'est en version corse.
En version corse, absolument.
Je ne savais pas que ça existait en version corse.
Mais nous avons même une version anglaise, polonaise, etc. Alors, pour revenir un tout petit peu au sujet de tout à l'heure, effectivement, c'est-à-dire que Jean-Paul II vient de Pologne, qui est un pays plus traditionaliste que la France, que l'Occident. Donc, effectivement, c'est l'histoire. L'Église a joué un rôle énorme, notamment pendant les partage de la Pologne, c'était un élément unificateur de trois parties qui étaient annexées par la Russie, Prusse et l'Autriche.
C'était la nation virtuelle des Polonais qui étaient privés de territoire.
C'est cela. Et sinon, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, mais quand même, peu de gens savent que en Pologne, avant la guerre, dans la partie est, il y a la religion uniate qui reconnaît le pape et les prêtres se marient. Alors, vous voyez, les mariages de prêtres dans l'Église qui dépend de Rome, ça existe, notamment en Ukraine occidentale maintenant. Donc voilà, donc il y a peut-être deux choses qui peuvent évoluer.
Alors dites-nous, est-ce que c'est une musique qui sort à l'occasion de ce centenaire?
Alors, oui et non. Disons que cette chanson a été composée en 86. Alors, je l'ai écrite, la musique, avec Jean-Pierre Stora, qui, alors c'est une parenthèse, qui a été choisie par Jean-Paul II en 79 pour écrire les musiques pour le premier disque avec ses poèmes qui est sorti à Rome en 79, donc avec Giulietta Masina.
C'est ça, donc c'est une musique qui illustre les poèmes de Jean-Paul II.
C'est une musique qui illustre, pas celle qu'on vient d'écouter, hein, c'est une autre. Et par contre, depuis deux ans, là, depuis 2018, on a travaillé avec Jean-Pierre, je l'ai aidé, pour les démarches, les disques français de poèmes est sorti ces mois-ci.
Donc voilà, c'est ce dont on est censé parler ce matin aussi, puisque voilà. C'est dans l'actualité. C'est-à-dire que Jean-Paul II, aujourd'hui, il y a toujours des productions qui concernent un public qui est toujours attaché à la figure de Jean-Paul II, ce qui demeure extrêmement important. Alain Vircondelet, il y a, on en parlait d'ailleurs au mois de juillet, me semble-t-il, Alain Vircondelet, il y a eu la volonté, peut-être la volonté aussi de déboulonner un peu les statues, il y a eu un mouvement allant dans le sens de décanonisons Jean-Paul II. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Vircondelet ?
J'en pense du mal, véritablement, parce que j'ai eu de plusieurs débats avec celle qui dirige, la directrice de Témoignages Chrétiens, qui a prononcé effectivement cette fameuse parole en une quasiment de son journal, décanonisons-le. Je pense que cette parole est évidemment violente et qui de toute façon n'a pas de sens, puisque je pense que ce sera une opération absolument impossible de revenir en arrière sur cette canonisation. Mais la parole est puissante, hein, la parole est violente, et elle rentre dans effectivement cette ère que nous entamons en ce moment, qui est celle de déboulonner les statues et de détruire les grandes figures tutélaires de notre société.
Mais ce ne sont pas les catholiques eux-mêmes qui déboulonnent les statues.
Il y a eu effectivement certaines institutions, certains milieux politicaux, sociaux qui ont déboulonné les statues. On l'a vu ce printemps et cet été dernier. Mais en ce qui concerne au cœur même de l'Église, puisque la directrice de Témoignages Chrétiens se dit catholique pratiquante, elle a appelé à justement décanoniser Jean-Paul II, donc déboulonner une statue sur le plan symbolique. Je crois que ça fait partie, je pense, de ce grand processus de ménage que le monde veut faire à certains moments de son histoire. Je crois que ça me paraît très vulgaire comme attitude. Je crois que regarder la grande épopée de Jean-Paul II au travers d'un point qui, dans son contexte précis, auquel il ne pouvait pas répondre sur ce point-là totalement. C'est vrai qu'on lui a reproché d'avoir couvert, entre guillemets, ou d'avoir faim de ne pas entendre les problèmes concernant la pédophilie ou certains grands et graves problèmes auxquels la société est confrontée aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu cette fragilité-là de Jean-Paul II, mais on peut peut-être la comprendre au regard de son histoire et au regard de ce qu'a été l'histoire du monde après la chute du communisme. Je crois qu'il y a d'autres points qui font occulter. Il y a plutôt l'histoire de Jean-Paul II est une histoire immense, et il y a une puissance qu'il a exprimée au cours de son pontificat qui me paraît tellement forte et qui me paraît pas occulter du tout ce que prétendent ses adversaires.
Qu'est-ce qu'il faut en garder maintenant que la guerre froide est terminée, ou la guerre froide telle qu'on l'a connue est terminée? Qu'est-ce qu'il faut garder de Jean-Paul II? Qu'est-ce qu'on peut conserver de lui 100 ans après sa naissance?
Écoutez, moi, mon livre de chevet, quand je travaille sur Jean-Paul II ou que j'ai envie de revenir vers lui, c'est son recueil de poèmes. Il a écrit, c'est un des plus grands poètes polonais. Il a été traduit en France par Pierre Emmanuel, qui est un non moins grand poète. Et son recueil de poèmes est absolument admirable parce qu'il relate son enseignement. Ce n'est pas une poésie forcément didactique, pédagogique. magique, mais c'est une poésie qui donne de la force, qui donne de l'énergie et qui ramène au centre et au cœur des choses. Et c'est peut-être ce que Jean-Paul II a été tout au long de sa vie, c'est de recentrer en fin de compte les hommes, de les rassembler. Il y a quelque chose entre Saint-Exupéry et le pape Jean-Paul II dans leur pensée qui est commune. Autant quand on lit Terre des Hommes, par exemple, on est tout d'un coup plein d'humanité et plein d'élan. Et quand on lit les poèmes de Jean-Paul II et quand on regarde ce qu'il a fait autour de lui, eh bien, on est porteur de cette force et de cette énergie-là. En pensant à vous, j'avais sorti le recueil en question et il dit dedans cette chose assez belle, je vais vous la lire, ces trois lignes, hein. « Faible est le peuple s'il accepte sa défaite, s'il oublie qu'il reçut mandat de veiller jusqu'à ce que vienne son heure. Car sur l'immense cadran de l'histoire, les heures viennent toujours. Voici la liturgie de l'histoire. » La vigile est verbe du Seigneur et verbe du peuple, parole toujours acceptée à nouveau. Les heures deviennent le psaume de conversion à n'en pas finir. Nous sommes en marche pour prendre part à l'Eucharistie des mondes. Je trouve ça très très beau, vous voyez, très fort et en même temps plein d'espérance.
C'est ça
que Jean-Paul dit.
Alain Vercondelet, Georges Navrotsky va réagir à ce que vous avez dit, Georges Navrotsky.
Oui, c'est effectivement, c'est dans le chapitre « Quand je pense patrie », ce qui est peut-être le recueil qui se rapporte le plus effectivement à son ressentiment par rapport à l'histoire de la Pologne, puisque là il part ouvertement effectivement de partage, hein, donc faible est le peuple qui accepte sa défaite, etc. J'aime beaucoup justement, c'est peut-être le chapitre, enfin le recueil que je préfère dans les poèmes de Jean-Paul II. Oui.
Donc c'est le pape aussi de la résistance, de l'âme polonaise, de l'identité, c'est aussi tout cela qui associe, son nom est associé aussi à tout ça. On va peut-être écouter la version ukrainienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Navrotsky, puisque
du berger,
tout simplement, en ukrainien, et on sait que la Pologne, il y a une partie de l'Ukraine qui est d'influence polonaise.
Et oui, absolument.
Donc, ce n'est pas non plus
la Galicie.
La Galicie. Un berger de Pologne, composé par Jean-Pierre Stora et Georges Navrotsky, notre invité ce matin.
Oui, avec un texte de Michel Jourdan.
Voilà, il faut le souligner aussi.
Absolument, c'est Michel Jourdan qui a écrit notamment Les Vendanges de l'amour, il a nagé sur Yesterday, etc. Voilà, c'est un grand parolier français. Et alors cette chanson a été enregistrée en 1994 par une chorale ukrainienne qui a priori n'est pas uniate puisqu'elle vient d'Odessa, donc c'est un tout petit peu bizarre que
sur la mer Noire.
Voilà, sur la mer Noire et plutôt du parti orthodoxe, hein, de l'Ukraine. Et la chorale l'a chantée devant Jean-Paul II en 1997. Hein, ils étaient invités à Castelgandolfo pour faire un concert privé et donc ils ont chanté notamment cette chanson à Jean-Paul II.
Et donc voilà. C'est Jean-Paul II qui a choisi le compositeur Jean-Pierre Stora, on peut le dire, hein, pour les musiques, devant accompagner les poèmes qu'il avait écrits lorsqu'il s'appelait encore donc Karol Wojtyła, et c'est là donc qu'on peut se procurer ce CD qui s'appelle donc Karol Wojtyła, poème tout simplement, musique de Jean-Pierre Stora.
Stora avec Judith Magre et Sébastien Lemoine.
Et donc les textes de Jean-Paul II sont lus.
En français, récité
en français.
Tout à fait.
Alain Vercondelet, est-ce qu'il y a aujourd'hui, 100 ans après sa naissance, est-ce qu'il y a des débats autour de Jean-Paul II? On parlait tout à l'heure de ce que dit le pape François à propos de l'union civile entre personnes homosexuelles, etc. Vous avez employé l'adjectif « ce n'est pas innocent que ça arrive à ce moment-là ». Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de droit d'inventaire sur Jean-Paul II?
Oui, enfin, il y a un droit d'inventaire qui est conduit actuellement, effectivement, par tout la part progressiste du catholicisme dans le monde, et particulièrement en France. Alors, oui, on considère que, je pense à Christian Terrasse, par exemple, qui est le rédacteur de la revue Goliath, qui est très hostile à Jean-Paul II. Il disait toujours, Terrasse, que Jean-Paul II avait pris l'univers pour une paroisse polonaise des années 1950. Donc il situe exactement Jean-Paul II dans une perspective traditionnaliste et en tous les cas réactionnaire. Un homme qui n'a pas vu l'avenir, qui n'a pas vu le monde changer. C'est en effet un mouvement qui s'est organisé très récemment pour défendre les problèmes sociétaux, particulièrement le droit des femmes dans l'Église, le mariage des prêtres, l'avortement, tout ce que Jean-Paul II a appelé la culture, disait-il, de mort, comme vous l'avez signalé en préambule de votre émission, la culture de mort, cette phrase qui a quand même été très, très fortement relayée dans l'Église durant son pontificat.
C'est peut-être la phrase que l'on garde de lui, d'ailleurs, avec le « n'ayons pas peur »,« n'ayez pas peur », c'est peut-être la phrase que l'on garde de lui, hein.
Mais oui. Mais je pense qu'effectivement, les deux ne s'équivalent pas finalement dans la critique. Je crois que la culture de mort, on la voit aujourd'hui de toutes les façons. Hein, et je pense que il y avait un mot justement qui me revient maintenant à l'esprit quand on consultait Jean-Paul II. Moi, il m'est arrivé de le visiter évidemment régulièrement, et je sais qu'il disait cette phrase à beaucoup de ses invités et qu'il recevait. Il disait toujours, la chose que je vous demande, c'est de ne jamais manquer de vision. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé, cette chose-là, cette phrase-là, même dans ma vie personnelle, hein, de ne jamais manquer de vision. Le regard de Jean-Paul II est un regard qui va bien au-delà des problèmes, particuliers, quotidiens ou immédiats. C'est un regard qui va beaucoup plus loin. Et c'est peut-être cela que l'immense majorité des catholiques, des chrétiens et même des gens qui ne sont pas du tout dans la foi chrétienne ont retenu de Jean-Paul II. Parce que cette phrase que vous avez citée, « n'ayez pas peur », qu'il a prononcée lors de sa fameuse messe le 22 octobre 1978, ça a quand même résonné comme une claque incroyable dans le monde. Et il avait ce sens de la formule, il avait ce sens de la vérité. Et quand je discute avec des féministes d'aujourd'hui, très très politisées, comme justement la rédactrice de Témoignages chrétiens, je pense que il y a des phrases que Jean-Paul II a dites et que je leur ai rappelées, que j'ai rappelées. À Lourdes, souvenez-vous, vous les femmes, vous êtes les sentinelles de l'invisible.
On va finir sur cette considération. Incroyable. Merci beaucoup Alain Vercondelet d'avoir évoqué avec nous Jean-Paul II, vie et mort d'un géant. Je précise, ce sont 18 portraits de Jean-Paul II qui retracent toute sa vie depuis le petit Lolec de l'enfance au sein mondialement vénéré. Et puis cette chanson, merci Georges Nawrocki, qui s'appelle Un berger de Pologne, et le CD de poèmes de Jean-Paul II qui donc vient de paraître. Je vous souhaite une excellente journée. We'll be right back.